Salut tout le monde, 18h30, une belle journée en ce mardi. J'espère qu'elle a été agréable pour vous. Bienvenue aux amateurs de sport. La belle visite à l'émission ce soir, alors qu'on va s'entretenir avec Laurent Duvernay-Tardif, nouveau diplômé de McGill en médecine. Il a reçu son diplôme aujourd'hui. Lui qui s'apprête à entreprendre une autre saison avec les Chiefs de Kansas City dans la NFL. Deux carrières en parallèle. Il devient le premier joueur actif de la NFL à être diplômé comme médecin. Alors, ce soir, l'essentiel de ce qu'on va vous proposer en fin de semaine prochaine dans le cadre des entrevues Mario Langlois rencontre, vous aurez quelques-uns des meilleurs moments de cet entretien-là ce soir. Aussi au menu, bien sûr, le match disputé hier, match numéro 1 de la finale de la Coupe Stanley. Ça a brassé beaucoup à l'entraînement de l'Impact. On y reviendra avec Vincent Destouches et Jérémy Filosotte tout à l'heure. Mais d'abord, accueillons Danny Dubé. Bonsoir, Danny.
Salut, Mario.
Alors, on était curieux de savoir comment ça allait tourner ce premier match-là, qui allait marquer le premier but. Le premier match est joué. Vegas mène 1-0. Crois-tu que c'est un match qui va avoir une incidence significative sur la suite des choses?
Oui. Moi, je t'ai dit hier avec Mario Tremblay, on parlait de l'allure de cette série. Puis moi, je te disais, c'est drôle, hein, j'ai le feeling que ce ne sera pas une longue série pour plusieurs éléments. Un, je trouve que les Golden Knights sont très difficiles à vaincre à la maison, combiné aux difficultés des Capitals de gagner chez eux. Alors là, il y a comme un double effet, c'est un mauvais cocktail, si vous me prêtez l'expression. Fait que ça, déjà, au départ, il y a quelque chose là. On a aussi regardé ces deux équipes-là en se disant peut-être qu'il y a plus de profondeur offensive chez les Capitals. C'est faux. C'est faux parce que du côté des Golden Knights, il y a quand même trois trios qui ont eu des performances cette année quand même au-dessus de ce qui était escompté au départ, dans le sens où c'est trois premiers trios ont eu des statistiques individuelles, obtenu des statistiques individuelles supérieures à l'année précédente. Alors, écoute, c'est pas rien. C'est une des meilleures équipes offensives de la Ligue. C'est une équipe contre qui c'est extrêmement difficile de trouver de l'espace. Alors hier, on en a eu un aperçu, même si ça n'a pas été un grand classique défensif, puis moi, j'ai plutôt aimé ça.
Ben tout le monde a aimé ça. 10 buts dans un match, ça a été serré tout le long. Écoute, c'est le genre de hockey que tu veux, mais je suis convaincu qu'on va avoir des matchs de meilleure qualité au niveau de l'exécution. Mais c'est que Vegas prouve qu'ils peuvent gagner d'une autre façon. T'sais, ils ont gagné de pas mal toutes les façons possibles. Ouais. Et hier, donc, ce faisant, ben ils mettent leur pied à terre dans la série. Il y en a plusieurs qui se disaient, ben Washington, beaucoup ou un peu supérieur à Winnipeg. Reste qu'hier, ils avaient le match à leur portée. Ils ont fait illégaliser quand Lars Eller a eu une chance dans les derniers moments.
C'est sûr.
Donc, ça demeure intriguant. C'était quand même un peu violent par moment, encore une fois, avec la grande tolérance des arbitres. Pas d'audition pour Wilson. Je le glisse
ça,
au passage.
Ça, c'est une grande déception pour moi.
Pas surpris quand même, j'imagine.
Pas surpris, mais une grande déception. Je pense que la Ligue a besoin de mettre ses culottes. On est en finale de la Coupe Stanley, mais ça n'exclut pas ou ça ne dédouane pas les gestes disgracieux. Ça ne dédouane pas non plus les situations pour éliminer des joueurs clés. Tu sais, Wilson, il joue sur un trio offensif, mais c'est un petit peu celui qui vient replacer les choses à niveau.
Il sait qu'il frappe là, hier, quand il frappe Marchessault à peu près deux secondes et demie après qu'il ait touché à rondelle. Il est très conscient de ça. Là. C'est qui le meilleur pointeur des Golden Knights de Vegas en série?
Une minute, laisse-moi y penser. Ouais, là, ben, oui.
C'est qui le meilleur trio? Puis c'est ça qui fait la différence. Le trio, même si c'est pas eux qui ont produit tous les points hier, c'est un trio qui fait la différence. C'est un trio qui a été meilleur que le premier trio des Caps hier.
Absolument. Dans l'attitude et le comportement, on gère pas les conséquences. On gère l'attitude et le comportement. À un moment donné, là, y a des choses, là, tu peux pas... Si, en plus, il y a des dommages collatéraux, c'est encore plus grave. Là, ça devrait être une augmentation. Mais on devrait pas exclure celui qui a fait un geste disgracieux ou un geste comme dans ce cas-ci. C'est vraiment... Il a vraiment tenté de lui faire mal. Là. C'était facile pour lui. Écoute, là, l'autre, il...
Marchessault
fait dos au jeu. Il y a aucune idée qui est là. Puis lui arrive par en arrière, puis il frappe... Ça me met en fusil, là. Tu sais, je regarde ça et je dis...
Veux-tu que je
te
fasse fâcher, mais je te ferai pas fâcher tant que ça, parce que je sais que tu le sais que ça se passe de même, mais juste pour le partager avec nos auditeurs. Une équipe, là, qui réussit à blesser un joueur clé l'autre bord, là, Wilson, il est prêt à s'en taper une suspension pour l'équipe. Je suis convaincu qu'il est prêt à vivre avec. Si Marchessault avait été blessé hier, là...
T'as raison. C'est plate à dire, là, mais t'as raison pour la... C'est une évidence. autant on peut le détester, Tom Wilson, c'est un gars d'équipe.
Ben oui.
Puis il pense à contribuer comme il peut. Et c'est ce qui est le plus fort dans le vestiaire. Comment je peux aider mon équipe à gagner? Et si on en est là, à un moment donné, là, ça prend un shérif, là. Tu sais, à un moment donné, il faut absolument qu'on dise « Hey, hey, wow, tant de minutes. » Moi, je reviens toujours sur la même chose. Est-ce que le joueur qui a été frappé avait la rondelle? Est-ce que l'équipe tentait de récupérer la rondelle ou est-ce qu'on est ailleurs? Et dans le cas qui nous intéresse, où est-ce qu'on est ailleurs, on en est là. C'était un autre agenda et c'est là où je trouve que la Ligue manque énormément de mordant parce que c'est la finale. Écoute, ça demeure la même infraction, le même geste avec la même intention, avec des conséquences encore plus graves. Et en ce qui me concerne, Mario, je continue de le dire, le joueur fautif dans une situation comme celle-là, lorsqu'il est suspendu, on devrait empêcher l'équipe de le remplacer dans l'alignement. Donc,
ça ferait encore plus mal, de jouer avec un joueur de moins dans ton alignement, c'est
mais,
sûr.
Mais je vais aller plus loin, parce qu'en plus, je te dis, j'ai du respect pour Tom Wilson.
Ben oui, c'est un bon joueur de hockey. Ouais. Il joue pour son équipe. Je suis sûr que c'est un des gars les plus populaires dans le vestiaire.
Exactement. Alors lui, là, si tu lui dis, par le biais de l'association des joueurs, à partir de maintenant, quand tu vas poser un geste comme celui-là, en plus d'être suspendu puis de prendre ça pour l'équipe, tu vas nuire à ton équipe parce qu'on ne te remplacera pas, donc il y aura un joueur de moins dans l'alignement.
Ça va peut-être faire travailler le cerveau différemment un peu, là, ben quand là, il vient le temps d'être chien comme il l'a été hier avec Marchessault.
Ben, c'est parce qu'en plus, si ce joueur-là carbure à tout ce que ça lui procure d'être un contributeur, à tout ce que l'adhésion dans l'équipe, la reconnaissance de ses pairs, mais là, c'est l'inverse. Mm-hmm. C'est la reconnaissance de ses pairs, là, tout à coup, ça dit « Hey, tu viens de nous mettre dans le trouble, mon gars. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu viens de nuire à l'équipe. Pas pour 2 minutes, pas pour un match, parce que t'es pas là, pas parce que 3 matchs, parce que t'es pas là, parce que... Pour 3 matchs, t'es pas là. Et en plus, on peut pas te remplacer.
Il a été suspendu dans une série précédente. Puis ils ont gagné pareil leur série. Alors, comme quoi, moi, c'est pour ça que je pense pas que ça l'achale tant que ça. Mais ça me permet de souligner quand même un autre élément qu'on a souligné ensemble. C'est le courage que ça prend pour jouer dans la Ligue nationale face à des joueurs qui clairement sont là avec des intentions malsaines. Des gars comme Marchessault, qui est carrément un pivot de l'attaque des Golden Knights. Puis il y a un paquet de gars comme lui qui subissent des traitements semblables également. Fait que ça t'en prend des couilles d'acier, m'a dire une affaire pour être une glace avec des gars qui ont ces intentions-là. Et c'est le cas de Marchessault. Tu le vois, là, il est revenu dans le match, puis tu le vois même dans les déclarations d'après-match. Ils veulent pas jouer aux victimes. Tu sais, on sait bien là, que c'est inacceptable, mais ils veulent pas mettre d'huile sur le feu. En voulant dire. Mais je suis convaincu, ça vient ajouter à la motivation s'il en manquait.
Oui, mais je veux dire quelque chose par rapport à Marchessault. Je souhaite que les Golden Knights remportent la Coupe Stanley, parce que ça va être la dernière fois qu'il va être traité comme ça. Parce qu'à partir du moment où l'équipe va gagner la Coupe Stanley, il va être traité comme Martin Saint-Louis. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont se permettre des libertés sur des joueurs comme lui. Si son équipe gagne la Coupe Stanley, il deviendra un joueur vedette dans la Ligue nationale. Il deviendra la deuxième génération, appelons ça comme ça, là, ou 2.0 Martin Saint-Louis. Tout comme Carlson deviendra le 2.0 Kopitar, comme je disais lundi, c'est ce qui va se passer. Parce que c'est le succès qui va dicter leur statut. Actuellement, c'est des... écoute, c'est les gars que les autres ont pas gardé pour toutes les... Puis c'est vrai, puis c'est pas vrai, parce qu'on connaît toutes les règles qui ont entouré le repêchage des équipes d'expansion. Bon, ceci étant, il reste que le succès va changer le statut de ces joueurs-là. Le succès va changer la perception du grand public et de la planète hockey à l'endroit de ces gens-là. Alors, ces joueurs-là vont avoir un traitement différent à partir de l'an prochain. C'est sûr qu'on, je dis pas qu'on va arrêter de les frapper.
C'est dommage que ça compte pas à partir de maintenant, mais je pense que ça a du sens ce que tu dis.
Je pense qu'on est obligé de regarder ça comme ça, parce que si on regarde le parcours de Martin Saint-Louis au début, c'était un négligé. Je pense que Marchessault fait partie de cette catégorie-là. Puis hier, en passant, on avait parlé de la ligne de centre. Hier, a la première passe. Il a fait un jeu extraordinaire. En plus d'aller chercher la rondelle derrière le filet, il est revenu. C'est lui qui a créé l'écran devant le gardien pour le premier but. Et je parle bien sûr de Holtby. Ensuite, c'est Carlson qui marque le deuxième but. de l'équipe. Et c'est Riley Smith qui marque le troisième but. Et c'est encore une fois le trio de Carlson. Donc, écoute, c'est ensuite tu regardes
Nozak. Ils sont bons. Là. C'est écoute, pas de la chance, c'est pas rien. Ils confirment. Ils sont en finale. Puis ils enchaînent, exactement. Puis d'ailleurs, permets-moi de t'exposer des arguments entendus. Ça dérange les succès des Golden Knights. Moi, je suis convaincu qu'en coulisses, la plupart des dirigeants d'équipe souhaitent que Washington gagne parce que c'est très confrontant de voir une équipe qui gagne à sa première année d'existence. Mais comment ça se fait qu'ils sont rendus là? Et quand on parle du premier trio, il y a quelqu'un qui me faisait valoir un point fort intéressant hier par rapport au Golden Knights. Tu parlais de profondeur en attaque, mais dans tous les sens, c'est que eux, par exemple, quelqu'un qui travaille dans le monde du hockey au quotidien, ils n'en ont pas de Joe Morrow, eux autres, à la défense de Vegas. Ils ont 8 gars qui sont capables de jouer dans la Ligue nationale. On remonte au repêchage. Il y avait 8 gars. Là, ils en ont libéré une coupe. Ils ont fait des échanges, Emeline et compagnie. Mais donc, beaucoup de profondeur. Et en même temps, mais la surprise, donc, on savait qu'il y aurait de la profondeur. On savait qu'il y aurait un bon quatrième trio puis un bon troisième trio. Mais honnêtement, qui savait que ce qui allait devenir le premier trio de Vegas allait devenir un des meilleurs trios de la Ligue.
Mais les autres ne savaient pas.
C'est ça la différence. Parce que profondeur, être capable de te défendre, on le savait. Ils ont payé de gros prix, puis il y avait des joueurs d'une certaine qualité. Mais là, tu as un des meilleurs trios de la Ligue, Danny, en toutes circonstances.
Oui, exactement. Et si tu regardes, pourquoi c'est un des meilleurs trios de la Ligue, c'est aussi à cause de l'excellence du deuxième trio. Parce que
aussi.
Tu regardes, oh là, ben c'est parce qu'à un moment donné, tu en surveilles un, c'est l'autre qui marque. C'est
exact.
Un peu ça qui fait que ton premier a de l'espace et un peu d'air pour carburer. Là. C'est que, non, écoute, c'est une équipe. Pis, et je nous ramène dans le temps, là, Mario. Tu te souviens? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport au repêchage de l'expansion, à tout ce qui s'est passé en coulisses. Et on disait, cette équipe-là va quand même avoir une bonne défensive. Parce ils ont travaillé très fort pour aller chercher beaucoup de défenseurs, sachant que c'était une denrée rare, que c'était difficile de les avoir. Là, il y en avait plus de disponibles. Eux, les équipes, en libéraient en se disant, ben, ils vont en prendre un là, puis un là, ils prendront pas lui. Finalement, ils en ont pris plus. Donc, ça leur a donné des munitions pour faire des transactions et ça leur a permis d'aligner vraiment leur identité d'équipe. Puis moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'ils ont réussi autour de Marc-André Fleury, parce que c'est le visage de la concession.
Oui.
Ils ont bâti autour de lui et honnêtement, ce qui se passe autour, c'est de l'extra. Et dans le cas de... Ils doivent bien rigoler de voir jouer Marchessault, sachant très bien qu'ils ont obtenu Marchessault parce qu'ils ont pris Riley Smith.
Imagine, comme Carlson, ils ont pris un premier choix puis un deuxième choix pour s'assurer. Columbus voulait s'assurer qu'ils prennent Carlson, qui confirme qu'il demeure bon. Hier encore des jeux défensifs, offensifs. Et au plan statistique, Danny, tu l'as peut-être remarqué à l'œil. Moi, je pense que c'était remarquable à l'œil, mais je suis allé le valider en regardant les stats du match d'hier. 22 revirements provoqués par les Golden Knights de Vegas, contre seulement 9 pour les Caps de Washington. C'est pas que les Caps en ont donné tant que ça, ils en ont donné juste 8, mais les rondelles libres, Vegas en a récupéré sa large part. J'ai une petite question à te demander, puis ça va nous permettre également de t'entendre commenter sur certains joueurs. Vegas ont pris un pari à la date limite des transactions, c'est de continuer pas mal avec l'essentiel de leur formation, quitte à en perdre à la fin de l'année, parce qu'il y a des joueurs qui vont bénéficier d'un statut de joueur autonome sans compensation. Je t'en nomme quelques-uns. James Neal, David Perron, Ryan Reeves, qui vraiment là laisse son empreinte dans ces séries-là, Luca Zbiza. Lequel trouverais-tu intéressant de voir s'amener dans un club comme celui du Canadien de Montréal la saison prochaine?
Il n'y en a pas beaucoup.
Non? Aucun dans ces quatre-là? Aucun intéressant?
Écoute, Zbiza, pour moi, je ne suis pas un fan de Zbiza. Tu sais, je trouve que, bon, là, il est dans un environnement où il contribue de façon assez intéressante, mais je suis pas un défenseur avec lequel je suis vraiment à l'aise. Je regarde le reste de l'équipe. Reeves, c'est pour moi, c'est des joueurs comme ça. Il va en avoir de moins en moins dans la Ligue nationale. Il connaît les bonnes séries, puis tant mieux pour lui, là. Mais
ça va passer.
Moi, il n'est pas dans ma palette, mais pas du tout, là. Mais là, je parle pour moi.
Oui. C'est à toi que je l'ai demandé. Ça donne bien. C'est ton opinion, je voulais. David, lui.
Je pense que James Neal, c'est pas nécessairement une. On va dire ça comme ça. Je pense pas que c'est un gars qui, avec le statut qu'il va revendiquer lorsqu'il va arriver à Montréal, que c'est le genre de joueur que tu veux au sein du Canadien de Montréal. D'ailleurs, quand on regarde, c'est quand même pas un des joueurs les plus importants. C'est un marqueur naturel.
Mais depuis qu'il a été frappé à la tête dans l'autre ronde, là.
Oui, t'as raison, par exemple. Faut que je lui donne ça. T'as raison.
C'est plus le même parce qu'il y avait des bonnes séries, mais là, je le sens un petit peu plus sur le bout de la, comme on dit, là, moins impliqué physiquement. Il te reste David Perron à commenter.
Ben, c'est celui.
À qui le Canadien a offert un contrat d'une année, d'ailleurs, il y a quelques années, mais Saint-Louis, il en avait offert deux. Il est allé là-bas.
C'est ça. S'il y a un joueur pour moi qui représente peut-être une belle aventure, c'est David, parce que je pense qu'il va bénéficier de son expérience là-bas. Ça va être un joueur qui va être différent après son expérience avec Vegas s'il ne demeure pas avec l'équipe. Mais tu sais, je fais une petite parenthèse. J'ai-tu le temps, là, 2 secondes?
Oui, oui.
Bon, c'est que moi, je me souviens de certaines expériences vécues dans mon ancienne vie. Une fois avec Clément, où on avait été au championnat canadien avec une équipe, puis on a changé plusieurs joueurs. Vraiment, là, presque la moitié de l'équipe, là. On est retourné avec 12 joueurs qu'on avait de l'année d'avant. Puis on a fait beaucoup de changements. Puis l'année suivante, on est retourné au championnat canadien, puis on a gagné la deuxième année. Puis c'était la première fois qu'une équipe, une université francophone gagnait le championnat canadien en 25 ans d'histoire, etc. C'était un beau moment que j'ai vécu avec Clément. Mais la grande leçon, c'est que c'est pas parce que tu as eu du succès.
Il faut pas faire de changement.
Exactement. Des fois, il faut sacrifier des choses ou des joueurs ou des personnes parce que c'est pas ce. Tu sais, c'est pas tout à fait ça. Je pense que
à Vegas,
c'est ce qu'on est en train de voir. Là, on vit un peu sur la magie, on vit un peu sur le momentum, mais on sait très bien, je pense en tout cas, c'est l'impression que ça me laisse, que on regarde ça, on sait que ça va prendre de la jeunesse, ça va prendre un petit peu plus de ceci, un petit peu plus de cela, un peu moins de ceci, un peu moins de cela. Il y a peut-être des joueurs qui vont être plus revendicateurs à partir de l'an prochain. Oui, dans certains cas, c'est pas grave, là, parce que tu sais que, regarde, demain matin, Fleury, il revendique quelque chose, c'est pas grave. Tu vas l'accommoder parce que c'est un joueur tellement important à ton équipe, mais il y en a d'autres, c'est peut-être pas la même chose. Alors, moi, je pense que ça, c'est un élément important. Puis j'ai fait la même chose avec l'équipe de France, avec un groupe. Écoute, c'est vraiment.
Tu me permets de partager une citation de Brendan Shanahan. Peut-être l'ai-je déjà fait, alors arrête-moi si je l'ai fait.
Non, vas-y, on va la partager avec les auditeurs.
Récemment, en entrevue avec la radio de Sportsnet à Toronto, sur les changements qu'il vient d'apporter à sa haute direction, on lui a demandé, la question était la suivante. On dit, faut pas réparer quelque chose qui est pas brisé. Don't fix something that is not broken. Fait que, il y en a qui suggéraient dans la question, est-ce que tu as réparé quelque chose qui était pas brisé avec le départ de Lou Lamoriello, Mark Hunt et compagnie? La réponse de Shanahan, il dit, je pense que si on attend que quelque chose soit brisé pour le réparer dans le monde du hockey, ça peut coûter de 10 à 15 années de développement.
Ben, écoute, si t'attends que ton auto soit brisée avant d'aller la faire réparer, ça va te coûter beaucoup plus cher que si t'avais été un peu prévoyant. Ben,
c'est sûr qu'il n'y a pas de garantie que ça va bien aller, tous les changements qu'il a annoncés, mais là, je veux dire, pour les faire, il fallait bien qu'ils y croient.
Non, mais Mario, c'est parce que quand t'as du succès à l'interne, nous, de l'extérieur, c'est plus difficile, mais à l'interne, moi, pour l'avoir vécu, je sais qu'est-ce qui fait que ça marche.
Exact.
La colonne vertébrale, je la vois, là. Je deal avec à tous les jours.
Oui.
Et quand ça marche pas, je sais aussi ce qui marche pas. Donc, le plus difficile, c'est de réussir à avoir du succès et de créer ton espèce de d'architecture de succès. Tu comprends? T'as une recette. Là, ça veut pas dire que la recette est toujours la même. C'est pas vrai. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a comme un cadre qui t'appartient, qui te représente, qui fait que c'est dans l'identitaire, dans un paquet de choses qu'on, des fois c'est des mots qu'on utilise, les gens disent c'est galvaudé, mais ça ne l'est pas. C'est dans l'ADN, dans tout ça. Donc, moi je pense que c'est déjà établi avec Vegas, qui est
ils sont prêts à laisser partir, tu veux dire?
Oui, non, mais c'est ça. Qui est intouchable, mais pas comme ça, là, ils diront jamais, mais bon, les joueurs qui représentent la photo de famille. Sur la photo de famille, il y a des visages qui ne peuvent pas être absents de la photo de famille.
La colonne.
C'est ça, exactement. Et dans chaque équipe à succès, que ce soit une entreprise, que ce soit une équipe de hockey ou une équipe de n'importe quoi, c'est les personnalités fortes qui te permettent de passer à un autre niveau.
C'est intéressant ce que tu dis parce que David Perron, tu me permets pour revenir à lui.
J'en prie, vas-y.
C'est un gars qui a une forte personnalité et c'est souvent mal perçu. Mais moi, je pense que c'est une qualité, puis peut-être même qu'il fait plus partie de la colonne de Vegas qu'on pense. Mais bref, ça serait intéressant de voir où il va poursuivre sa carrière la saison prochaine, lui.
Ben, tu sais, des fois, d'être un peu rebelle, tu sais, ou de pas être dans les normes, ça se peut que ça te cause des problèmes, mais...
Il est bon, récupération de rondelle, puis en contrôle de rondelle.
Tiens le cap. Moi, je trouve, ouais. Moi, je l'aime, David. Je trouve que c'est un joueur qui a quelque chose, il a quelque chose de spécial, il a quelque chose à apporter. Puis,
il y a du chien aussi.
C'est ça. Puis c'est un joueur qui, des fois, qui est plus difficile à saisir.
Et je vais quand même dire ceci. Hitchcock l'a ramené à Saint-Louis, pareil.
Oui, mais je reviens à ce que je te disais. C'est un joueur qui est plus difficile à saisir. Puis on est dans l'immédiat. On passe pas beaucoup de temps à s'occuper des gens, à essayer de les saisir. Il faut que ce soit rapide, tout ça. Donc lui, il est peut-être pas dans cette catégorie de joueurs-là, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de précieux, David Perron.
Je te souhaite sur ça une excellente soirée. Pas trop déboussolé de pas avoir de hockey ce soir, Danny.
Je vais m'en remettre.
Bon, ben, j'espère bien. Bonne soirée, Danny. On s'en reparle demain.
Bye-bye.
Match numéro 2 de la finale. Toujours un plaisir avec Danny Dubé. On revient dans un petit moment pour la suite des choses. Et n'oubliez pas cet entretien avec Laurent Duvernay-Tardif, ce qui s'en vient. Et une chronique sport business bien spéciale avec Ray ce soir.